Entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers, tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, and those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et tous les mercredis, on se retrouve pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir au Café des Métiers Michel Yagger, consultant en projet de vie, mais également créateur de jeux et pédagogue. Michel, c'est une philosophie de vie au-delà d'un métier. D'un DUT en carrière sociale à l'animation socio-culturelle, en passant par la sophrologie et la création de l'Académie des projets de vie. Aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, n'ayez pas peur de la remise en question. Nous allons aborder la notion de liberté, du sens de la vie, de la place donnée au travail et la quête de soi. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue au Café des Métiers et merci de venir nous partager ton expérience au micro de Prune. On pourrait dire de ton parcours qu'il est très éclectique de par tes différentes formations, mais toujours dans le même domaine, celui de la quête de soi. Aujourd'hui, tu es accompagnateur en projet de vie. Concrètement, comment tu pourrais définir cette posture ?
Très bonne question. Alors, cette posture, c'est toute une philosophie. C'est penser que l'être humain vient au monde avec des qualités personnelles, intrinsèques, et des qualités, bien sûr, qu'on va cultiver, et que chacun a un rêve et un idéal de vie dans la tête. Et moi, pour moi, on est plus malade d'un manque de notre futur qui ne va pas vers notre idéal de vie que plutôt vers notre passé. Donc mon but, c'est d'emmener les gens vers leur idéal de vie et de voir par rapport à la société dans laquelle on est, si c'est faisable, pas faisable, comment c'est réalisable ou pas réalisable.
D'accord. Et quelles sont les différences majeures entre un entretien avec toi et un entretien avec un psychologue ou un conseiller d'orientation ?
La première différence, c'est que j'utilise que des outils qui sont des outils... je travaille beaucoup sur le langage non-verbal, sur la relation, sur la communication, sur des échanges. Et puis, je n'ai aucun a priori par rapport au marché du travail. Contrairement à ce qui se passe avec France Travail et les missions locales, où on va chercher à orienter les gens, moi, le but, c'est que la personne, elle se retrouve face à elle-même et à ses désirs.
Selon toi, est-ce que le sens donné à la vie, bon, on parle tout de suite des grands sujets, hein, est-ce que le sens donné à la vie passe forcément par le travail ?
Non, parce que je suis un fanat des peuples premiers, et chez les peuples premiers, le travail, on n'a que des activités qui nous font plaisir. Et moi j'ai l'habitude de dire que je ne travaille pas, j'ai une activité qui me permet de me nourrir. Alors c'est un choix, c'est moi qui ai proposé mon activité à la société et c'est pas la société qui m'impose mon choix. Aujourd'hui, si on a des burn-out, si on a du décrochage, c'est qu'on veut prédire aux gens la place qu'ils doivent prendre en fonction du bénéfice que la société va gagner. Mais on ne tient pas compte du désir de l'être humain et surtout du rythme de vie de l'être humain. L'être humain a besoin d'un rythme posé, lent, en ayant ce que moi j'appelle le projet de vie, la vie de famille, les revenus, la santé, prendre en compte le tout. Et l'être humain est réduit à un travail. Et le mot travail, moi, me fait penser à des années un peu glorieuses, avec un monsieur dans les années 39-40 qui a des relents un peu violents pour moi.
Pour toi, est-ce qu'on devrait tous avoir un métier passion ?
Pas forcément. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de découvrir qu'est-ce qui me met en vie, moi. au début de l'émission dont tu mets le mot motivation. Et moi, je dis que la motivation, c'est quand je trouve les mots qui me mettent en vie et qui me font passer à l'action. Et pour moi, ce qui est important, c'est si c'est ma famille ou mon couple ou si c'est mes amis qui me donnent envie ou si j'ai simplement un loisir et que le métier, j'en ai rien à faire, pourquoi prendre un métier passion et dévoyer quelque chose qui, pour moi, est fondamental.
D'accord. Ça m'amène à une question. Est-ce que toi, tu fais une différence entre la vie perso, justement, et la vie professionnelle, où pour toi, tout est lié? Et dans le cas où une personne ferait un métier qui ne la passionne pas, est-ce que justement là, c'est pas primordial de séparer la vie perso et la vie pro?
Pour moi, tout est lié, puisque quand ma vie perso ne va pas, ça impacte ma vie pro, mais quand ma vie pro ne va pas, ça impacte énormément ma vie perso. Ça marche dans les deux sens. Et l'erreur de dire, c'est quand je rentre le soir, je ferme la porte et je laisse mes soucis. Je pense que c'est une douce utopie de faire ça. Ou alors, il faut vraiment se prendre un temps perso, où je fais le point avec moi-même, je m'occupe de moi avant de rentrer. Mais ça veut dire que j'ai conscience d'un projet de vie et que mon émotion impacte les émotions des autres.
C'est-à-dire ?
Ben, j'ai conscience que mes émotions vont impacter la vie de mon conjoint, de mon partenaire, de mes enfants, voire de mes amis ou de l'activité que je vais faire derrière.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne saucissonne pas ma vie. Il y a le travail, il y a ceci, il y a cela. Et c'est un peu se déguiser pour moi.
Oui. Peut-être que ça peut rassurer aussi des personnes de cadrer leur vie comme ça, en scindant un petit peu les deux parties, surtout si elles ne sont pas épanouies, peut-être, dans leur profession.
Ben, plein de gens disent que dans la vie, il faut se forcer.
Et qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Pour moi, quand on est dans une activité, on ne se force pas. Ça ne veut pas dire que tout est blanc, que tout fonctionne à merveille, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que quand je suis sur mon chemin, quand je suis vers l'activité qui me plaît et le projet de vie qui me plaît, je sais que je vais avoir des épreuves sur mon chemin. Mais je suis sur mon chemin, donc j'ai de l'avenir, j'ai de la projection.
D'accord. Comme par exemple des métiers dans lesquels il faut faire des longues études, parfois laborieuses et très difficiles, mais si on est sûr de ce qu'on veut faire au bout, ça en vaut la peine de parfois se forcer.
Alors, ça en vaut la peine de se forcer. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la préadolescence, on a un besoin qui est fondamental, c'est d'être utile aux autres. Donc si on ne se projette que dans les études, qu'on n'a plus de relations et qu'on n'est pas utile aux autres, on va souffrir. Et on le voit de plus en plus avec des étudiants en médecine, en droit, qui arrêtent la dernière année juste au moment où d'être diplômés parce que, en fait, ils ont oublié cette notion de projet de vie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un équilibre dans tous les domaines de vie pour pouvoir m'épanouir. Et aujourd'hui, on fait les enfants de la réussite. C'est-à-dire qu'un bébé, il doit savoir marcher à tel moment, il doit savoir faire les choses. Et à la maternelle, il faut qu'il maîtrise ci. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans l'épanouissement de l'être. L'être doit réussir absolument quelque chose.
Selon toi, on n'écoute plus assez nos rythmes naturels d'évolution ?
Ah, on ne les écoute plus du tout.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement plus les écouter, que ça prenne plus de place dans la société ?
Bah, déjà, changer le rythme du travail. Puisque dans la société, on a des gens qui travaillent énormément et on a d'autres qui n'ont pas de travail. Et puis, ou alors, on dirige les gens vers un travail qui n'a aucun épanouissement et on s'étonne qu'il n'y a pas de motivation derrière. Et il n'y a même pas une motivation financière pour pouvoir, justement, cette notion de projet de vie. Si j'ai un travail, entre guillemets, qui ne me plaît absolument pas, ben, si je gagne des sous et que je peux emmener ma famille faire ce que j'ai envie ou moi m'offrir des choses,
il y a
un projet derrière. Si on me propose un travail qui ne vaut rien, mais que j'ai aucune reconnaissance et que j'ai aucune chose qui me permette, moi, de nourrir mon projet de vie, je vais arrêter et je ne vais pas être motivé du tout.
Il y a un manque de sens qui se fait ressentir.
Je pense qu'on a perdu le sens. On a mis le mot productivité, mais on a perdu le mot sens.
Oh, c'est très beau. Depuis 40 ans, Michel, tu accompagnes les individus vers l'autonomie et la liberté, notamment à travers la pédagogie de la libre motivation. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec cette pédagogie ?
Ma personnalité, déjà, parce que depuis tout petit, dès qu'on cherche à m'enfermer, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire de l'animation. Et là, je me suis rendu compte que j'ai eu la chance de démarrer l'animation dans une période où on avait une liberté monstrueuse. Mais on partait de rien, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun budget. Voilà, on nous mettait des locaux à disposition. Nous, on avait un salaire minima. Et on nous disait, bah, il faut que les mômes du quartier trouvent quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'ils viennent vous voir.
Et donc, dès 15 ans, tu as commencé à travailler dans l'animation. Tu as arrêté les études, c'était pas...
Non, je faisais les études en parallèle. D'accord. Mais tous les mercredis, tous les week-ends, je bossais dans un quartier pour pouvoir, moi, me faire la fête à côté parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me donner. Puis aussi, par passion, puisque depuis que je suis tout petit, moi, la pédagogie, c'est quelque chose qui me parle. Et j'étais capable de dire à un enseignant qu'il n'avait pas fait la bonne chose, ce qui fait que j'ai eu quelques mots sur mes carnets depuis longtemps. Et que les mômes, je voyais que pour les intéresser, eh ben, il fallait partir d'eux et leur donner la liberté de choisir ce qu'ils avaient envie de faire.
Et donc, concrètement, cette pédagogie de la libre motivation, comment tu l'appliques au quotidien dans tes accompagnements ?
Comment je l'applique au quotidien ? Ben, je me pose déjà toujours la question de la liberté. Je pose la question de qu'est-ce qui rend libre la personne qui est en face de moi. Je lui pose aussi beaucoup de questions sur les attaches. Et dans la pédagogie de la libre motivation, je fais très très attention à quelque chose qui sont les félicitations.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire quand on félicite quelqu'un, on l'emmène vers la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire pour lui-même, pour sa satisfaction perso, mais il va faire pour avoir l'acquiescement de l'autre, l'amour de l'autre. Et pour moi, c'est hyper important, parce qu'on est dans de la domination, on est dans un pouvoir informe. Et puis, on emmène des gens vers la dépendance affective, la dépendance vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis des patrons, des chefs, etc. Et on peut vite être enchaîné. Et c'est la reconnaissance, c'est ce qui est le principe même de la manipulation.
Donc toi, justement, tu essaies de donner moins de reconnaissance
En fait, je demande à la personne de trouver elle-même la reconnaissance dans ce qu'elle vient de faire.
D'accord, une reconnaissance interne, en fait, qui dépend de
mes petits-enfants, je ne leur dis jamais que c'est joli ce qu'ils font. Je leur pose la question, comment ils trouvent ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont pris plaisir à le faire ?
D'accord.
Est-ce qu'ils auraient envie de reproduire ? D'ailleurs, que l'idée, c'est d'amener l'autre à réfléchir à l'acte qu'il a posé, mais ne pas « et qui je suis ?» pour pouvoir, moi, dire « c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste. » Enfin, si on prend l'art, combien de gens font des écoles d'art et arrêtent ? Parce que dans l'art, on cherche à codifier et on ne permet pas l'expression de soi.
Donc, travailler à être plus indépendant dans la reconnaissance.
Libre.
Le Café des Métiers, un ou une invitée, une foule d'expériences.
Michel, est-ce qu'il t'arrive parfois de ne pas te sentir légitime à accompagner ou parfois d'avoir l'impression que la responsabilité est trop grande dans la vie d'une personne à se chercher ?
Alors, le syndrome de l'imposteur, je l'ai. Je l'ai forcément, puisque dans une société où on est beaucoup intuitif, où je suis beaucoup intuitif, beaucoup sur le ressenti, beaucoup sur le non-verbal, alors que la société est très scientiste, on a inventé une nouvelle religion. Hein. Je ne suis pas contre la science, mais aujourd'hui, on a inventé une nouvelle religion. On a mis à mal toutes les religions traditionnelles. Je ne suis pas pour les religions, loin de là. Mais on a réinventé autre chose. Donc, quand on n'est pas scientiste, quand on n'a pas un diplôme aujourd'hui, on est remis en question en permanence. Alors qu'il y a plein de gens qui sont très doués, et c'est ce que j'appelle les qualités innées, il y a plein de gens qui sont très doués à faire des choses sans jamais avoir besoin de l'apprendre, ou alors qu'ils l'apprennent avec une facilité déconcertante, que ce soit dans la psycho, que ce soit dans les métiers manuels ou autres. J'ai plein de gens qui se lancent et qui réussissent très vite, alors que d'autres apprennent pendant des années. C'est ça, les qualités innées qu'il peut y avoir, quoi.
Mais est-ce que, selon toi, les études ne permettent pas justement parfois de poser un cadre là où des personnes sans formation pourraient profiter justement du... Comment dire ? Si certaines compétences sont innées, peut-être que certaines personnes pourraient profiter de ce mouvement-là
pour se faire de l'argent en donnant des cours ou en faisant des accompagnements, alors que profondément, elles n'ont pas spécialement de facilité à faire ça, mais pour profiter un petit peu du système.
Ça marche dans les deux sens, puisqu'il y a aussi des gens qui sont diplômés et qui n'ont pas les qualités requises pour le faire et qui sont un peu incompétents. C'est... En fait, il y a l'histoire du diplôme, et effectivement, de maîtriser ce que fait la personne, comment la personne fait. Et, pour moi, c'est plus de l'ordre d'une supervision et que de l'ordre du diplôme qui va donner une raison.
Est-ce que pour toi, Michel, accompagner les personnes dans la quête de sens donne du sens à ta propre vie ?
Ah oui, clairement, oui, 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 oui.
D'accord.
Oui, c'est parce que moi, je me suis posé le sens de la vie depuis très très longtemps que je peux comprendre tous les gens qui ne cherchent pas une orientation, mais qui cherchent un sens à la vie. Je pense que c'est deux notions qu'il faut... L'orientation, c'est purement c'est un métier. Aujourd'hui, si moi j'accompagne plein de jeunes décrocheurs, c'est ma spécialité. Et les gens qui décrochent, ce n'est pas les gens qui cherchent une orientation. Ils n'en ont rien à fiche de l'orientation. Les phrases qu'ils me disent, c'est « mais pourquoi on m'a mis sur Terre ?» Donc il ne me semble pas que c'est une histoire d'orientation, simplement une histoire de pédagogie. C'est... Mais en fait, quel est le sens ? Et quand ils regardent les adultes, ils se posent la question, mais tu me dis de grandir. Et quand je te vois, toi, qui râle sur le travail, qui râle sur la vie, sur tout ce qu'il y a, pourquoi je devrais imiter un système où je vois la douleur ?
Dans ton travail d'accompagnement, Michel, tu utilises des outils comme la notion de porte d'entrée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qu'une porte d'entrée ?
Eh bien, une porte d'entrée, c'est capital pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on éduque tout le monde à devenir CDIste. C'est-à-dire avoir, à être le Graal, c'est d'avoir un CDI, puisque quand tu as un CDI, tu as tous les crédits. Mmh. Et quand tu as les crédits, tu es sûr d'être enchaîné à ta boîte et à ton poste. Et par exemple, j'aime bien donner des exemples. Et j'ai travaillé longtemps avec les missions locales. Et dans une mission locale, il y a un jeune qui vient nous voir pour une action en disant « J'arrête mon CAP de plombier, c'est de la merde. »
Ah.
Bah ouais, pas de problème, etc. Et dans cette session, il y avait une semaine balisée où chacun devait proposer un métier pour emmener les autres visiter le métier. Lui, naturellement, nous dit « je vais emmener les autres chez un plombier, comme ça ils verront que c'est de la merde et qu'il ne faut pas aller vers ces métiers-là, etc. » C'est vraiment ses expressions. On arrive chez un plombier, tout le monde discute, le plombier est super sympa. Puis au moment de partir, il y en a un qui ne revient pas dans le camion, c'est ce jeune-là. Donc on attend, puis quand il revient, je lui dis « mais tu te moques de moi ou quoi ?» Il me dit « non. Je viens d'obtenir un apprentissage. » Je dis, mais tu peux m'expliquer ? Tu nous as dit que plombier, c'était de la merde.
Oui.
Et là, tu repars sur un CAP de plombier. Mais il dit, ouais, mais c'est simple. Avant, on me proposait de travailler pour des grandes boîtes, de faire l'intérim, etc. Là, j'ai vu un plombier qui était à son compte. Donc, qui avait un statut d'indépendant, qui avait cette notion de liberté et qui pouvait gérer sa vie comme il a envie. Et une porte d'entrée, c'est ce qui fait... J'aime bien cet exemple-là. C'est ce qui fait que ça me motive vraiment. Je reviens. C'est la porte d'entrée, c'est vraiment les mots qui me mettent en vie, qui me font passer à l'action, sans notion d'effort. Quand je suis sur ma porte d'entrée, c'est... Alors, j'ai beaucoup travaillé en orientation, la porte d'entrée. Mais j'ai aussi, quand ma formation, pendant 6 ans que j'ai fait formation psycho-humaniste, j'allais à Paris. Et mon grand plaisir, c'était de discuter avec les SDF.
Pourquoi ?
Et à Nantes, quand je venais, parce que je trouve que c'est des gens avec qui on ne communique pas. Et pour moi, la relation, elle est fondamentale. Je trouve que dans une société, et la première chose que je fais quand j'accompagne les gens vers un projet, c'est apprendre la parole.
Et l'importance des mots. Sur ces belles paroles, justement, nous allons partir sur une petite pause musicale d'un morceau choisi par Michel. On écoute Janis Joplin qui interprète « Cry Baby ». Charlotte, et nous sommes toujours au Café des Métiers avec notre invité Michel. Michel, quel rapport possèdes-tu avec cette musique ?
Moi j'adore, je suis un hypersensible et j'adore la musique qui me met dans l'émotion. Et celle-là, tout particulièrement, tout le chant, la voix, et puis tout le message aussi de pouvoir pleurer. Et on est une société où soit on pleure trop, soit on s'empêche de pleurer.
Merci Michel pour ce joli moment musical. Dans ton travail, tu es également créateur de jeux. Tu as notamment créé un jeu autour des qualités. Est-ce que tu as observé une meilleure participation des jeunes avec ce type d'outils ?
Oui, alors pourquoi j'ai créé deux jeux ? J'ai créé un jeu, enfin une méthode pour accompagner qui s'appelle Futur Actao. Donc 1000 cartes, et c'est pour passer d'une vie subie à une vie choisie, justement pour prendre conscience de ses portes d'entrée et prendre conscience de comment à certains moments on a suivi des parcours qui ne sont pas des choix, mais qui ont été des choix d'autres. Donc il y a celui-là que je continue à diffuser avec une mise en main de 4 jours, parce que c'est une posture, c'est pour des professionnels. Et,
donc tu formes des professionnels à utiliser
oui,
ces jeux ?
Oui, à utiliser ce jeu-là. Il y a 70 personnes à peu près qui sont formées à Futur Actao et qui l'utilisent dans le cadre de leur profession.
D'accord.
Et dans ce jeu-là, j'ai mis l'accent sur les qualités. En moyenne, les gens en connaissent entre 7 et 23. Donc le but de l'autre, donc dans Futur Actao, il y a des qualités, et de ces qualités-là, je les ai sorties pour faire un jeu qui s'appelle Illici. Enfin, on parle de qualité en permanence,
oui.
Sauf qu'on n'accompagne jamais les gens à réfléchir aux qualités. Il y a 1100 mots dans les dictionnaires pour parler, pour définir un individu. Donc c'est un jeu plutôt pour les situations de formation, d'enseignement, etc. Où on va réfléchir sur la définition qualité. On va aller voir aussi qu'on a une culture, mais qui n'est pas qu'une culture savante. On a une culture personnelle. Et pour que chacun développe son vocabulaire. Parce que quand j'ai du vocabulaire qui me qualifie, je peux aller à la rencontre des autres. Quand je ne sais pas mettre de mots sur ce que je suis, j'évite la relation, j'évite de mettre, et notamment j'évite de faire des choix. Et pour moi, dans l'orientation, si on peut parler de compétences, mais avant, on peut parler de qualité. Et dans les qualités, quand on fait le chemin, les autres. Et souvent, j'ai des qualités personnelles qui sont hyper importantes dans l'orientation auxquelles je ne fais pas attention. Je veux dire vous, parce que pour moi, je découvre mes qualités à travers les autres. Je pense à quelqu'un qui est venu et la personne, je lui dis, t'as quoi comme qualité ? Elle me dit rien. Et la mère lui dit, bah si. En fait, quand t'es avec tes potes, c'est toi qui organise, c'est toi qui rassemble, c'est toi qui fédère, c'est toi qui fait les budgets, etc. Il me semble que t'es un sacré leader et une organisatrice.
C'est qu'elle ne s'en rendait pas compte. Elle avait pas
conscience. En fait, les qualités que j'ai appelées innées, on n'en a aucune conscience parce qu'il n'y a pas de souffrance pour les mettre en marche.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on donne de la valeur aux qualités qui sont liées à l'apprentissage et on donne de la valeur à la souffrance. Donc quand tu souffres pour apprendre quelque chose, oui, tu es compétent. Mais quand c'est inné, on n'y donne absolument pas de choses.
Tu parles beaucoup de qualités. Est-ce que selon toi, c'est tout aussi important d'avoir conscience de ses limites ou de ses défauts ?
Pour moi, les défauts n'existent pas.
C'est intéressant.
Pour moi, un défaut, c'est quoi ? C'est une qualité qui n'est pas exploitée au bon endroit, de la bonne manière.
Est-ce que tu aurais un exemple ?
Oh, j'en ai un très simple que je connais bien. Toute ma vie, on m'a traité de bavard. Aujourd'hui, je gagne ma vie en étant ce micro parce que je sais parler. Et ce que je trouve important dans le jeu et sur les qualités, c'est de redonner la vraie définition des mots. Bavard, à l'origine, c'est quelqu'un qui a la capacité à mettre des mots sur sa pensée et la pensée d'autrui. Par contre, donc, c'est une vraie qualité. Par contre, quand je le fais dans un lieu où on ne me demande pas de prendre la parole, ça devient un défaut.
Tout dépend du contexte.
En fait, ça dépend du contexte, ça dépend de la conscience qu'on a de la qualité, et ça dépend de notre capacité à gérer l'endroit où on utilise notre qualité. Et puis, quand on est, par exemple, très créatif et qu'on n'utilise pas la créativité, notre imagination, on va basculer dans l'imaginaire et on peut se créer des crises d'angoisse parce qu'on n'utilise pas notre imagination au quotidien.
D'où l'intérêt de bien se connaître.
D'où l'intérêt de bien se connaître, et pour moi, ça devrait être un programme scolaire depuis la maternelle.
C'est intéressant. Quels sont les principaux défis auxquels tu peux faire face dans le cadre de tes accompagnements ?
Les plus grands défis, je dirais, quand j'ai des jeunes qui vont très mal, c'est de faire comprendre aux parents le mode de fonctionnement du jeune, et de leur dire que changer, ça prend du temps. On est une société qui veut tout, qui veut des changements rapides. C'est pour ça qu'il y a plein de médicaments. C'est facile, le changement de comportement est hyper rapide. Le plus grand défi, c'est accompagner les parents, puisque quand j'accompagne un jeune qui va mal, pour moi, j'accompagne les parents en même temps. Puisque l'entourage est aussi important. L'entourage doit être bienveillant et pour que le jeune se sente en sécurité et puisse grandir petit bout par petit bout.
Il t'est déjà arrivé d'avoir des parents plus réticents que le jeune lui-même à l'évolution ?
C'est plus que courant. Et je suis reconnu pour avoir un franc-parler vis-à-vis des parents et de les mettre face à leur comportement et à l'incidence sur les enfants.
Donc quand tu suis un jeune, tu as aussi des entretiens avec les parents régulièrement ?
Oui. Je ne démarre jamais un entretien avec un jeune sans démarrer un temps avec les parents. Et en fin d'entretien, je refais un point avec les parents. Et pour certaines situations, on fait l'entretien tous ensemble.
D'accord. C'est un suivi très complet.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Nous sommes toujours au Café des Métiers avec notre invité Michel, accompagnateur en projet de vie. Michel, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui a le goût de l'accompagnement, comme toi, mais qui ne se sent pas légitime de se lancer dans ce domaine, qu'est-ce que tu lui partagerais ?
Ah, bonne question, on me l'avait pas posée celle-là, félicitations. Je lui dirais déjà, avant de démarrer l'accompagnement, de développer ses capacités relationnelles. C'est-à-dire de prendre l'habitude d'aller à la rencontre de plein de gens, sans avoir l'objectif d'aider, mais simplement pouvoir prendre contact. Parce que j'ai l'habitude de dire que dans les formations que je fais pour les gens qui accompagnent, on a 15 secondes pour créer la sécurité de la relation. Donc plus j'ai de capacité à créer la relation rapidement, plus je vais pouvoir accompagner. Et pour moi, c'est cette capacité-là qui est plus importante que toutes les techniques qui existent. Et plus la personne est mal, plus elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc, il faut s'habituer à créer la relation et il faut s'habituer au langage non-verbal. puisque je peux faire mentir mes mots, mais je ne peux pas faire mentir mon regard, je ne peux pas faire mentir mon corps, je ne peux, voilà, je peux pas maîtriser mon inconscient qui s'exprime par mon corps.
Tout à l'heure, tu parlais du fait que selon toi, on devrait être plus sensibilisé quand on est jeune à la notion d'orientation, la notion de connaissance de soi. Est-ce que si tu avais la possibilité d'ajouter un cours par semaine dans l'emploi du temps des collégiens ou lycéens en rapport avec justement l'orientation ou la connaissance de soi, quel format ce cours prendrait-il ?
Mais il rejoindrait mon autre passion qui est la mise en scène et le théâtre, puisque j'ai créé aussi un mode d'accompagnement avec l'Exprime Lab. C'est du théâtre, c'est de la gestalt, c'est plein de techniques mélangées. Avec, là encore, la notion, on n'aboutit pas à quelque chose, on expérimente des choses. Et on n'est pas dans le jeu de rôle non plus, parce que je donne beaucoup d'importance aux émotions. Quoi. Mmh. Donc ça serait un cours d'expression de soi. On l'a fait dans certains collèges, pour des quatrièmes par exemple. C'est un cours où on apprend, on sort du langage, on va être debout, on va être dans le corps. On va être dans l'expression et l'utilisation de son imagination. Puisqu'on oublie de dire aux gens que plus on a d'imagination, plus on a de capacité à s'adapter dans la vie de tous les jours. Mmh. Et chez nous, quand tu as de l'imagination, on dit que tu es un rêveur.
Mmh. Un peu tête en l'air.
Oui. Mmh. Tu vois D'accord. pas que tu perds ton temps, là.
Eh bien, j'espère qu'un jour, ces cours feront partie du programme obligatoire scolaire. Pour les personnes qui sont intéressées par ton approche, par ton travail, sur quelle plateforme on peut te retrouver ?
Pour l'instant, sur LinkedIn,
oui.
Puisque sur la page Michel Yekcher, là, j'ai recréé une association et on est au démarrage. Donc, il y a encore l'ancienne page de l'Académie des projets de vie avec les contacts. Mais pour informer tout ce qu'on fait, on est en pleine construction avec l'équipe, la nouvelle équipe de Normand Boîte. Donc, on n'a pas de site encore, on n'a pas de Facebook, on n'a pas d'Insta. Par contre, sur LinkedIn, on peut me contacter et aller plus loin.
Eh bien, merci à toi, Michel, pour ton partage très inspirant. On te souhaite plein de belles rencontres et que tes accompagnements continuent d'aider des personnes à se trouver.
Eh bien, merci de m'avoir donné la parole.
Avec plaisir. Et nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers et tous les jours en podcast sur prune.net. Je vous souhaite une belle après-midi, travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez et surtout prenez soin de vous.